On va passer au second orateur. Donc, le second orateur, c'est Alexandre Dulaunois, et on va parler des lois et libertés dans la société de l'information, comment protéger nos droits, comment protéger nos libertés.
Bonjour à tous. Je suis très content de voir que ça intéresse du monde quand même la liberté fondamentale. Alors, ce que je veux d'abord voir, c'est un peu sonder le public pour voir un peu ce que vous connaissez. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est fondamentalement, ce que c'est le droit d'auteur ? Ok, d'accord. Comme ça, je vois dans quel slide je peux continuer, etc., et aller un peu plus loin. Bon, en fait, je vais un petit peu présenter l'ASBL en une ligne. Donc, en fait, l'AEL, c'est une ASBL qui a un but principal, c'est le respect des libertés fondamentales dans la société de l'information. Donc les libertés fondamentales, ce sont celles qui sont déclarées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le but est assez ambitieux, mais nous avons des moyens pour les atteindre. Un des moyens est la promotion du logiciel libre. Il existe d'autres moyens comme la promotion de la vie privée, etc. Donc en fait, nous sommes une association qui a plusieurs activités pour atteindre son but. En fait. Parler un peu de l'association, c'est une association qui est très à plat. Tout le monde est activiste dans l'association. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il n'y ait pas de président, etc. Le problème, c'est que la législation belge l'oblige. Mais en général, on est tous considérés comme activistes. Donc, celui qui est membre dans la ASBL participe au développement et écoute de la même façon. C'est une chose assez importante au niveau de la gestion de comment on va attaquer le terrain au niveau des libertés fondamentales.
Toutes les décisions se font de façon démocratique, en fait.
Voilà. Malgré qu'on doit quand même faire les assemblées générales et des choses comme ça, tous les membres sont invités et peuvent critiquer ouvertement sans aucun problème. Ça, c'est un point critique pour nous, en fait. Donc, je veux dire, le sujet est complexe. Le sujet des lois, parce qu'on s'embarque, je crois, dans un terrain glissant. J'ai essayé de résumer simplement l'ensemble. Bon, au début, je vais présenter quelques concepts généraux sur les lois actuelles, le matériel, l'immatériel, ce qui est réellement palpable, et que souvent les lois sont basées sur ça. Et sur ça, il y a plusieurs écoles qui discutent sur la liberté à partir de ça. Il y a un concept d'indépendance des cyberespaces aussi qui est lié aussi à ce problème. Je dirais que c'est différentes écoles, différentes approches, mais ça permet en fait, c'est toujours le même but, hein, c'est toujours la liberté, mais vu sous différents angles. Ensuite, je ferai une petite introduction, une notion sur le droit d'auteur. J'irai peut-être un peu plus en détail sur ce point-là. J'espère n'être pas trop redondant avec Loïc, mais on verra. Ok, impeccable. Ensuite, je verrai sur les extensions abusives du droit d'auteur. Donc, en fait, le droit d'auteur est un cadre qui existe depuis longtemps, mais actuellement, il y a des risques à ces extensions du droit d'auteur qui ne sont peut-être pas légitimement réalisées. Je suppose que vous avez déjà vu ces lettres-là quelque part, donc il y a le DMCA, le UCD, etc. Donc ça, on verra un petit peu en détail ce que c'est. Je verrai aussi les lois qui sont plus spécifiques pour la gestion des droits d'auteur avec des outils spécifiques. Là, il y a, au niveau européen, il commence à avoir un projet de directive. Donc là, il y a aussi des actions qui vont bientôt se réaliser. Et un troisième point qui est aussi une extension abusive. Bon, je le mets dans l'extension abusive du droit d'auteur, mais le problème, c'est que c'est pas exactement la même chose, mais le brevet logiciel est dedans aussi. Je voulais montrer un exemple concret. Comme une association belge, on étudie des lois belges qui peuvent poser des problèmes au niveau des libertés fondamentales. Et il y a une loi sur la criminalité informatique qui est passée en 2000, qui pose certains problèmes. Donc là, on verra un peu en détail. Initialement, je m'étais dit, quand j'allais faire les slides, je vais faire un how-to technique, genre comment installer mon X-Free et que ça fonctionne toujours. Ça, c'est le truc que tout le monde pose comme question. Bon, ici, le but du how-to, c'est bien sûr le respect des libertés fondamentales et comment est-ce qu'on peut faire des choses pour respecter ces libertés. Au final, ici, vous voyez trois points, mais ça s'est résumé en un seul slide. Parce qu'en fait, j'attends un peu de votre feedback et voir ce que vous pouvez faire aussi pour les libertés fondamentales dans la société de l'information. Ensuite, il y aura quelques références et quelques questions-réponses. J'espère des réponses. Par contre, comme on n'est pas énormément, si vous voulez m'interrompre ou si vous trouvez que je dis une grosse bêtise ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, j'aime bien avoir la confrontation. Donc, n'hésitez pas. Je parle verbalement uniquement. Donc en fait, quelques concepts généraux. En fait, le problème de la société de l'information, c'est qu'on arrive dans quelque chose de très immatériel. Les concepts qui sont autour ne sont pas du tout la production de l'acier, les poutrelles qui vont arriver à telle date, etc. Donc, les lois qui ont été faites sur beaucoup d'années dans les démocraties, etc., se sont basées sur la propriété physique, sur des choses assez palpables, qui étaient conceptuellement assez faciles à réaliser au niveau des lois. Alors, au niveau des concepts, le problème, c'est que quand on tombe à la société d'information, on tombe entièrement sur des concepts d'objets immatériels. Alors, quand on fait une loi sur la propriété, par exemple, intellectuelle, enfin, intellectuelle, c'est le terme un peu adéquat, mais sur le droit d'auteur, bon, la propriété intellectuelle, que je tout de suite, on passe sur le sujet, on verra à la fin, mais la propriété intellectuelle regroupe un capharnaüm, je crois que le terme est juste, de plusieurs types de lois qui existent pour la protection de certaines choses spécifiques. Il y a d'un côté le droit d'auteur, avec le copyright. Copyright, c'est la partie anglo-saxonne, en fait, du droit d'auteur. Il y a la partie du trademark, il y a les trade secrets, etc. Donc ça, c'est des choses très spécifiques. Par exemple, le trademark protège un nom. Souvent, les lois ont été faites, en fait, sur des principes matériels. C'est-à-dire que votre voisin a une super tondeuse. Il tond sa pelouse tous les dimanches, matin, bien sûr. Vous trouvez que sa tondeuse est superbe, ben, vous voulez l'utiliser aussi le dimanche matin pour réveiller tous les voisins. Ben, fonctionnellement, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, vous avez la même tondeuse, tout le monde voit la tondeuse, peut prendre la tondeuse, mais vous ne pouvez pas l'utiliser au même moment. Et c'est là qu'au niveau de la société de l'information, tout change. C'est que vous avez des objets, mais le terme est entre guillemets. Il y a beaucoup de guillemets dans cette présentation, vous allez comprendre. C'est très, très abstrait. En fait, quand vous copiez quelque chose, vous ne le volez pas à votre voisin. Et le terme voler est peut-être inadéquat. Vous aidez votre voisin, par exemple, en lui prêtant un CD ou en copiant un CD. Ben, vous copiez des bits. Ben, au final, vous avez toujours votre CD. Vous pouvez toujours installer votre version Linux et votre voisin peut aussi vous embêter le dimanche matin et aussi installer son CD. Mais par contre, là, vous avez l'avantage que personne n'est lésé dans ce cas-là. Alors, en fait, vous pouvez copier librement les données. Donc, au fait, au niveau de la nature, c'est complètement différent des applications de loi standard qui, justement, s'organisent sur le principe d'exclusion. Alors, le principe d'exclusion, c'est quand j'ai quelque chose, je ne peux pas l'avoir. Enfin, quand j'ai quelque chose, quelqu'un d'autre ne peut pas l'avoir. Par contre, la partie immatérielle, mais justement, la non-propriété est un fait incontestable de la nature. Alors là, c'est assez haut comme phrase, mais en fait, c'est tout simple. C'est que une idée, quand vous avez une idée quelconque, vous pouvez la partager. C'est souvent l'intérêt, partager une idée, de la confronter. Et quand vous avez votre idée, ben, si on vous tue, ben, votre idée, vous l'avez transmise et tout le monde peut en participer. Et vous n'avez pas été tué. Vous pouvez être tué par votre idée, mais votre idée est toujours là. Donc c'est un peu l'argument traditionnel, on peut tuer un homme mais avoir une idée. Sur ça, il y a différentes approches. Il y a un document de Bernard Lin qui est sorti en fin d'année, qui lui parle d'écologie des idées. Bon, je crois que dans les intellectuels, il y aura des discussions sur la représentation des idées, est-ce que c'est réellement l'objet immatériel, enfin bon, on ne va pas entrer dans les détails. En fait, c'est assez marrant parce que tous les gens qui sont intellectuellement se battent sur des sujets de discussion, en fait, au final, ont toujours la même vision et veulent toujours arriver à la même chose. Donc, Bernard Lang lui dit, en fait, des idées, des concepts, des objets immatériels qui, pour se développer, s'enrichir, s'épanouir, ont besoin de circuler, de s'associer, de se confronter, de se fertiliser les uns les autres. Quelle phrase. En fait, c'est vrai pour tout. L'évolution de la société a fonctionné aussi énormément comme ça, par l'évolution des idées, etc. Mais là, avec la société de l'information, c'est vraiment violemment appliqué. Alors, il y a aussi une autre école, qui est, je l'appellerais l'école réactionniste. C'est quand vous voyez arriver ce que vous devez payer aux impôts, vous dites « Oh, je vais me plaindre, je vais écrire une lettre. » Donc, John Perry Barlow a fait exactement la même chose, peut-être un peu plus loin, dirons-nous. Il a fait la déclaration d'indépendance du cyberespace. Alors, ça, c'est très américain. parce que c'est lié en fait à la déclaration d'indépendance des États-Unis, etc. Mais je veux dire, dans les idées qui sont dedans, c'est des idées tout à fait standard, traditionnelles. Alors il a écrit ce texte pour une réaction d'une loi concrète qui était le CDA, le Communication Decency Act, qui faisait partie du Telecommunication Act aux États-Unis. Les Américains aiment bien les trucs compliqués, alors qu'ils changent tout le temps les acronymes, mais c'est fait aussi un peu exprès pour un peu embrouiller. Alors, qu'est-ce que c'était cet acte-là? C'était en fait, pour prendre quelques exemples, mais je dirais, je ne parle pas en général sur l'acte, mais vous aviez par exemple des questions sur, vous ne pouviez plus dire certains mots, la nudité était limitée, etc. Donc, ce fut assez, je dirais, c'était une des premières incursions des lois nationales sur le territoire du cyberespace. Et John Perry Barlow, je ne vais pas entrer en historique non plus, mais John Perry Barlow est un gars qui est un gauchiste bien marqué, qui a évolué dans l'école de Berkeley, etc. Il s'est dit, mais non, ça ne peut pas durer ça, il faut absolument qu'on déclare que, en fait, quel cyberespace est indépendant. Et en effet, il a mis le doigt sur énormément de choses qui sont intéressantes. Par exemple, il dit, vous prétendez que des problèmes se posent parmi nous et qu'il est nécessaire que vous les régliez. Alors, et ça, vous voyez ça tous les jours. Tous les jours, on vous dit, ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez énormément d'images pédophiles, vous avez énormément de pirates informatiques, etc., qui vont faire des choses dangereuses. Donc, il faut qu'on règle les problèmes à votre place, pas de problème. Ben, justement, s'il y a un problème, c'est que si c'est pour bafouer les libertés et les fondements de la société, c'est très dangereux. Alors, je vais faire un parallélisme. Il y en a certains qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. C'est l'évangélisation de l'Amérique du Sud. Ben, en fait, quand les Européens sont venus, ils ont évangélisé les gens en disant, ben voilà, ok, vous êtes une bande de sauvages, vos lois n'ont rien à voir, etc. Bien entendu, on sait la catastrophe que ça a généré. Ici, en fait, c'est une autre application. Le cyberespace est aussi un espace comme un autre, un territoire comme un autre. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait appliquer des lois spécifiques? Donc, je crois que le plus intéressant, c'est de communiquer, pas déjà de créer des lois avant, même qu'on se pose la question de savoir exactement comment ça consiste, quelle est la gestion, etc. Pour information, ARPANET et Internet, c'est quand même bien défini dès le départ. Des normes ont été ouvertes, l'accès était quand même assez ouvert suivant plusieurs années, et les standards ouverts ont permis déjà d'avoir une bonne régulation au niveau infrastructure. Et au niveau de l'éthique générale, il n'y a pas eu réellement de problème. Donc, il a bien mis le doigt sur pourquoi est-ce que vous voulez absolument entrer dans le cyberespace. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où vivent les corps. Donc, en fait, il représente c'est une autre façon de le dire, qu'en fait c'est l'immatériel qui est le point important du cyberespace. Alors, quand on parle d'immatériel, on va parler du droit d'auteur, qui lui est la limite du matériel, dirons-nous. En fait, le droit d'auteur, c'est quoi? C'est un droit qui a été, historiquement, le droit d'auteur a une mauvaise histoire. Ça vient de l'époque où on voulait restreindre justement la lecture dans certaines et la distribution des livres, c'était à l'époque de Gutenberg, etc. Mais le droit d'auteur est là, donc c'est déjà fait, donc on ne va pas remettre en question le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en fait, a été, je dirais, la dernière version du droit d'auteur qui est tout à fait correcte, c'est la Convention de Berne en 1979, qui décrit en fait que l'auteur d'une expression ou l'implémentation d'une idée a un droit dessus. Alors, ce droit a une durée de vie de l'auteur ou du contributeur, ça c'est important, contributeur pour le logiciel libre, durant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. Ça varie dans certains pays. Par exemple, les Américains ont su faire passer 90 ans pour Mickey Mouse, uniquement. Alors, souvent l'utilisation du copyright est négative. Ben oui, en fait, souvent, quand vous avez un auteur qui impose son copyright, il dit, ben ok, moi, je ne donne pas mon document et je le donne uniquement à ces personnes-ci ou à ces quatre figures-ci. Sauf que, et là je ne vais pas faire tout l'historique, mais il y a quelques personnes qui se sont dit oui, mais le droit d'auteur, il pourrait servir justement à garantir la liberté et à garantir la continuité de liberté. Alors, c'est ce qu'on dit des licences type dites copyleft. En fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent très bien le droit d'auteur pour garantir en fait la continuité de liberté à long terme. C'est-à-dire que si vous redistribuez le logiciel, si vous redistribuez, vous avez donc l'obligation de rendre toujours le code source disponible. Et ça, c'est un point très important en fait de la continuité liberté dans les licences dites copyleft, c'est on garantit la même chose et les mêmes droits à tout le monde. Ça, c'est un point important. Oui.
Je dirais plutôt, en fait, il y a des libertés qui sont garanties par la licence, et le copyleft dit qu'on ne peut pas enlever ces libertés. Le code source est juste une précondition pour l'exercice des quatre libertés qui sont
octroyées.
Donc en fait, on a des libertés, l'auteur s'est exprimé, a dit « je vous donne ces libertés-là, mais vous n'avez pas le droit de les enlever ».
Mais c'est l'application de la enfin, du code source qui est... il y a plusieurs licences dites copyleft, il y a la Good General Public License, il y a c'est la Free Documentation License, il y a aussi la même pour la FERO General Public License, qui est une version un peu modifiée, qui va peut-être aller vers la GPL V3, ça on verra plus tard. Alors, les dangers du droit d'auteur, en fait, c'est que l'extension, souvent, quand on dit droit d'auteur, on se dit, oui, mais c'est vrai, les auteurs ont le droit d'avoir leur... d'imposer, en fait... Oui, mais souvent, l'auteur n'est plus vraiment l'auteur. Et c'est là que c'est un peu le problème. C'est qu'il y a un glissement qui part de l'auteur du logiciel vers l'éditeur. Et souvent, les gens qui veulent en fait faire les extensions de droit d'auteur ne sont pas vraiment les auteurs. Vous n'avez pas une cohorte de musiciens et une cohorte de gens qui font du théâtre qui disent « Oui, mais maintenant, nous allons imposer le DMCA. » Non. En fait, c'est principalement en fait, les éditeurs qui récupèrent en fait, souvent les droits d'auteur. Les droits d'auteur des auteurs en fait réels. Alors, il y a un article, là c'est encore aussi à discussion, hein. Il y a donc l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, donc c'est une organisation qui a décidé de bien choisir le terme aussi, et qui a en fait deux articles qui ont été créés le 20 décembre 1996. C'est juste deux phrases comme quoi on entre dans le monde numérique et on dit « Ah, on peut commencer à enforcer la sécurité, enfin, enforcer les droits en utilisant sur certains composants numériques. » Bon, le problème de ça...
Je comprends pas.
Mais c'est dans la...
Enforcer, c'est le peu, quoi.
Donc ça veut dire qu'on peut étendre les droits, donc c'est-à-dire que dans les droits d'auteur, on dit, ok, l'auteur peut aller un peu plus loin sur la licence, il peut la donner, dire, ok, j'adhère à ces droits-là, etc. Mais il peut utiliser des méthodes de coercition autour en fait du de ce qu'il est propriétaire en fait. Et c'est là que c'est un peu dangereux, parce qu'en fait on donne ici la piste, je peux même la lire hein, si je peux la retrouver, c'est on donne en fait la piste pour pouvoir aller plus loin dans l'application du droit d'auteur en fait sur le numérique. Donc c'est juste une phrase. C'est juste une phrase qui est... Le problème, c'est que l'OMPI, c'est des gouvernements qui signent en fait un accord entre eux et qui disent, ben voilà, nous allons appliquer ce que dit l'OMPI, suivant telle et telle contrainte. Bon, la justification de l'OMPI peut être tendancieuse, mais...
Excuse-moi.
Oui.
Dans les dangers, je vois bien, les auteurs, en fait, donnent leurs droits à des éditeurs, et donc, du coup, c'est plus les auteurs qui décident, donc
tout ça est
biaisé, ça c'est clair.
Oui.
L'OMPI, c'est des traités internationaux qui font quoi ? Qui permettent une extension, une protection ?
En fait, ils étendent la protection du droit d'auteur. Mais le problème, comme ça...
Ils l'étendent concrètement sur quoi ?
Sur un seul point, oui. C'est d'autoriser... d'enforcer des mesures coercitives sur ce qu'ils ont comme...
Oui. Je vais peut-être vous expliquer comme je le comprends, comme ça,
oui.
Tu me diras à quel point je ne le comprends pas.
Oui.
je suis auteur, j'ai publié mon truc, maintenant, je trouve quelqu'un qui fait n'importe quoi avec, c'est pas du tout ce que j'ai voulu. Donc mon droit d'auteur est affreux. Je le traîne en justice et il est condamné. Mm-hmm. Ça, c'est ma protection, c'est ma façon de
traditionnel,
protéger mes droits. Oui. Maintenant, l'OMPI me donne un autre outil.
Voilà, un autre outil pour le faire. Donc, en fait...
De quel ordre ?
Matériel, en fait. Elle donne, au niveau légal, d'autoriser, de limiter. Quand on donne des droits, par exemple, à une personne, on dit, ben voilà, tu as le droit, par exemple, d'avoir un CD chez toi et l'utiliser où tu veux. Tu as acheté le CD, c'est un... Par contre, maintenant, ici, l'extension, ça permettrait de limiter ces droits. C'est-à-dire que légalement, les droits qu'on avait d'acheter un produit, on peut mettre des limites autour. Alors, c'est très flou, ça je suis bien d'accord avec toi, mais si tu lis le texte, tu verras tout de suite le problème, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent une méthode autour, en fait, de quelque chose de, qui était en fait bien défini. Donc, c'est principalement c'est un outil judiciaire complémentaire, si on va un peu plus loin, puisqu'en fait, ils appliquent ça en loi après. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, ou pas du tout.
Ça a un lien avec le MCA et le UCD.
Exactement. Je viens juste. Oui, exactement.
D'accord. Quand on viendra au MCA et au UCD, on comprendra un peu mieux, mais ça va vous changer de la chose.
Tout à fait. C'est juste. Et en fait, le slide suivant, c'est hop. C'est le MCA, voilà. En fait. Le problème, c'est en fait, surtout le décalage, et c'est là que ça devient plus dangereux, c'est l'expression des idées, en fait, que le droit d'auteur protège. Donc, par exemple, si vous faites un logiciel, par exemple, en GPL, et que j'ai un autre auteur qui dit « Ah, ben, je vais lire le code source et voir comment ça fonctionne. Ah, il y a des idées qui sont bien. Ben, je peux le réimplémenter. » En effet, oui, la réimplémentation peut se faire dans une autre licence, etc. La seule chose, c'est que ce que le droit d'auteur protège, c'est l'expression des idées. Donc, le code source. Légalement, c'est le code source qui est protégé. Et pas l'idée elle-même. Mais le problème, c'est que maintenant, on essaie de décaler ça vers l'idée. D'où le brevet logiciel, etc. Donc, le fameux point sur le MTI, en fait, a généré plein de choses. Et c'est là, justement, où je reviens. Oups. Application de l'article 10.11. Il y a aussi une discussion sur les articles. Enfin, ça, c'est aussi un autre point. Sur... les pays se disent « Ah, ok, j'ai signé un traité, maintenant je vais l'appliquer. » Alors, en fait, c'est plutôt dire « Je sais que j'ai fait ça à l'OMPI en sachant très bien ce que j'allais faire et qu'initialement, après, j'allais faire une loi. » Alors, cette loi, c'est le Digital Millennium Copyright Act qui est passé, donc c'est plus un projet de loi, c'est une loi qui est d'application, qui, en fait, autorise l'auteur à étendre des moyens coercitifs autour de ces... de ces en expression de langage spécifique. Donc, il y a un cas aux États-Unis qu'on appelle le Fair Use, donc je suppose que vous le connaissez tous, en fait, en Belgique, vous avez le droit aussi, qui est le droit à la copie privée, par exemple. Ben, en fait, le DMCA supprime ce droit principalement, puisque justement, il impose qu'on puisse utiliser des limites coercitives sur un CD, par exemple, comme une copy protection, et en fait, cette mesure coercitive, en fait, bah, limite en fait, vos droits que vous aviez initialement, qui étaient le fair use, la citation, etc. Et toutes ces lois, en fait, ont un cadre légal maintenant. Oui.
J'ai peut-être compris quelque chose de plus.
Non, c'est bien, c'est comme ça que tu dis.
Ça veut dire qu'en fait, ça protège les moyens de protection.
Voilà.
C'est-à-dire qu'avant, j'avais un logiciel ou un livre ou quelque chose. Si je bafouais le droit d'auteur, j'étais condamné. Maintenant, si je donne un logiciel, que je donne quelque chose qui protège l'accès de ce logiciel-là, le crypt, ou on est obligé de mettre une clé, etc. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui enlève la clé, il peut être condamné. Alors que par ailleurs, il n'a pas du tout fait bafouer mon droit d'auteur.
Il voulait juste, par ailleurs.
Il l'a acheté, etc. Mais s'il a enlevé la clé, du coup, je peux le condamner juste pour avoir enlevé la clé.
Exactement. En fait, il comprend très bien, mais il a une belle approche.
Non, c'est autre chose. Non, je ne suis pas en train de...
Mais non, mais c'est très bon. Non, mais ce que j'aime bien, c'est... Par exemple, il y a un sujet scientifique qui colle vraiment très mal avec ça, c'est la cryptographie. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi nous des cryptographes. Amateurs. Ok, bon, c'est jamais... Donc, en fait, la cryptographie... C'est l'art de faire des algorithmes qui vont, par exemple, utiliser des clés, etc. Dans la cryptographie, une des techniques traditionnelles pour quand on publie un algorithme, c'est on publie un algorithme qui dit, OK, il encrypte d'une telle façon. Mais on doit, pour prouver que son algorithme est solide, on doit l'attaquer soi-même. Donc, qu'est-ce que fait l'inventeur? Il dit, ben voilà, il y a telle attaque qui existe, et j'ai fait telle attaque dessus. En effet, ça pose tel problème si la clé est mal choisie, ou si autre chose est mal choisie, si la source random est mal choisie, par exemple. Eh bien, ça, on ne peut plus le faire. Pour une raison simple, c'est que souvent les cryptographes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils faisaient des attaques sur d'autres algorithmes pour montrer, ah oui, ils sont très solides ou ils ne sont pas très solides. Eh bien là, on ne peut plus le faire. Parce qu'en fait, on va prendre un exemple très concret. Tout simplement, vous avez un DVD qui est encrypté avec un algorithme de haute qualité. C'est ce que l'auditeur dit. Ok, pas de problème.